on pourrait schématiser en disant qu'on fonctionne à 50% de ce qu'on avait prévu sur une année normale. C'est-à-dire on a deux salles qui sont ouvertes pour faire des activités électives, c'est-à-dire programmées, et puis une salle d'urgence. Alors que d'habitude, on a cette possibilité sur quatre salles d'avoir des activités électives. Et ça, c'est depuis cette semaine, les semaines qui précédaient, on avait simplement une salle pour faire des activités dites urgentes ou non essentielles, plus une salle pour faire des urgences, on va dire, qui ne peuvent pas attendre du tout. Donc on est vraiment maintenant à 50% de ce qui était prévu. Et puis ça va durer jusqu'aux vacances de fin d'année. Et puis on espère pouvoir redébuter après les vacances, en début janvier, 11 janvier, une activité dite normale, c'est-à-dire à 100% de ce qu'on avait normalement prévu.
Pour la suite, on imagine que vous préparez divers scénarios parce que ça dépendra de l'évolution de la pandémie.
C'est exactement ça. Donc, on a eu différentes vagues avec différentes réponses possibles et différentes problématiques. La deuxième vague qu'on est encore en train d'avoir maintenant, le souci qu'on a principalement eu est un souci de personnel, à savoir qu'on avait du matériel en suffisance, des locaux en suffisance, on avait une pratique qu'on avait déjà testée, donc on savait comment fonctionner, mais on a été surpris par la rapidité d'évolution et puis la hauteur de la vague, si vous voulez, le nombre de patients auxquels on a dû faire face, et puis la problématique du personnel parce qu'il a été bien atteint par la maladie aussi, donc on a eu beaucoup de problématiques pour faire les horaires, pour avoir du personnel en suffisance, pour s'occuper des patients qui étaient Covid positifs, notamment aux soins intensifs. Donc, on a eu une façon de traiter à la première vague, une autre façon de traiter et une autre problématique à la deuxième vague. Il y aura très probablement une troisième vague parce que l'hiver est toujours là. Il va y avoir un peu un brassage avec les fêtes de fin d'année. Puis on ne sait pas à quoi elle va ressembler. Est-ce que ça va de nouveau être très violent? Est-ce que ça va être plus long? Est-ce que ça va être un état un peu chronique jusqu'au mois de mars où on aura un certain nombre de cas en permanence, mais qu'on n'aura plus d'élévation du nombre de cas? Donc tout ça, on ne sait pas. Comme chaque fois, il y a de multiples scénarios qui sont faits par des mathématiciens, des épidémiologistes. Et puis comme chaque fois, on doit se préparer à toutes ces éventualités.
Il n'en demeure pas moins que la suppression de ces opérations programmées, finalement, durant cette deuxième vague de Covid, a généré des attentes. Comment sont gérées les attentes? Il y a des listes. Comment ça se passe?
On a la chance d'être un hôpital assez petit, donc finalement, la solution est assez simple. Ce qu'on a simplement fait, c'est que comme je vous l'ai dit avant, on a maintenant deux salles au lieu de quatre, donc on est à 50% de l'activité qu'on attendait. Ça veut dire qu'on a réparti entre les opérateurs, entre les chirurgiens, deux fois moins de salles, on va dire deux fois moins de volume opératoire pour qu'ils puissent mettre leurs patients, et puis qu'on a vu avec eux pour mettre en place une ordre de priorisation. Donc chaque opérateur est responsable en fonction de sa liste d'attente, des patients qu'il a, des problèmes qu'ont ses patients, de hiérarchiser. Et l'idée, c'est de, ça on le fait spontanément, mais d'avoir toujours en première priorité les choses qui ne peuvent pas vraiment attendre, soit essentielles, soit qui sont, on pourrait qualifier d'urgence. En deuxième priorité, les interventions relativement importantes auxquelles on a dû sursoir, mais qui sont en mode stationnaire, donc qui nécessiteront une hospitalisation après. Puis en troisième priorité, les activités ambulatoires. Donc après, chaque opérateur, chaque chirurgien va lui-même faire sa liste d'attente en fonction du ressenti qu'il a avec ses patients. Ça peut être des patients qui sont extrêmement pressés pour des raisons autres que purement médicales. Moi, j'ai discuté hier avec un patient qui était prévu normalement pour une intervention orthopédique en mars, qui a été repoussé à cause de la première vague. Cet été, il ne pouvait pas pour des raisons professionnelles. Et maintenant, il a été repoussé une deuxième fois pour la deuxième vague. Et puis, on va essayer de le faire avant Noël. Donc, typiquement, lui, sa vie n'est pas en danger, mais vu qu'il attend quand même depuis un certain temps, il va être assez priorisé.
Parmi ces listes ou ces disciplines, est-ce qu'il y a précisément des secteurs où là, il faut s'attendre à davantage de délais pour faire ces opérations?
Oui, alors les secteurs qui naturellement avaient déjà le plus d'interventions électives, c'est-à-dire qui fonctionnent beaucoup avec des interventions programmées et qui ont dû être complètement stoppées ou pratiquement complètement stoppées, ceux-là, on va avoir une liste d'attente plus longue. Et il y a deux exemples qui me viennent à l'esprit, c'est l'orthopédie et l'urologie, par exemple. Donc eux, ils ont probablement plus de difficultés à gérer la liste d'attente que pourrait avoir une autre discipline qui avait moins d'activités électives qui ont été stoppées, comme par exemple la chirurgie viscérale, qui a quand même beaucoup d'activités qui sont des semi-urgences ou de l'activité oncologique qui ne pouvaient pas attendre. Donc là, l'activité a un peu continué. Mais orthopédie et urologie, oui, effectivement, c'est quelque chose où il y a des listes d'attente relativement longues.